Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Le sud Liban sous les bombes. Plus de 500 personnes tuées, notamment des femmes et des enfants, dans de nouvelles frappes israéliennes. Pour les autorités libanaises, la journée d'hier a même été la plus violente et la plus meurtrière depuis la guerre civile il y a 35 ans. Des milliers de familles fuient les zones bombardées sans savoir où aller.
Que Dieu protège le sud. Dites à Netanyahou qu'on va revenir.
Le premier ministre israélien a appelé les populations civiles du sud Liban à se mettre à l'abri, déterminés à poursuivre les frappes contre le Hezbollah, auteur de tirs de roquettes quotidiens vers Israël depuis le 8 octobre en soutien au Hamas.
La guerre d'Israël n'est pas contre vous, mais contre le Hezbollah. Depuis trop longtemps, le Hezbollah vous utilise comme bouclier humain. Il a placé des roquettes dans vos salons et des missiles dans vos garages.
L'État hébreu a intensifié ses attaques contre des caches d'armes, mais aussi contre des membres du Parti de Dieu. Attaque au beeper et au talkie-walkie piégé. Ou encore attaque ciblée vendredi dernier contre un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth où 16 hauts responsables du Hezbollah ont été tués.
Nasrallah, le chef du Hezbollah, se retrouve seul au sommet. Ses forces d'élite ont subi un coup fatal suite à l'élimination de leurs principaux commandants. C'est la semaine la plus difficile pour le Hezbollah depuis sa création.
Les tirs de roquettes du Hezbollah, alliés de l'Iran, et les frappes de l'aviation israélienne continuent de se répondre au sud Liban. Une escalade extrêmement dangereuse, selon les mots du chef de la diplomatie européenne.
Je peux dire que nous sommes presque au bord d'une guerre totale.
Alors l'escalade est-elle inévitable? Les États-Unis et l'Iran peuvent-ils empêcher que le Liban devienne l'autre Gaza, comme le redoute le secrétaire général de l'ONU?
Nos trois invités pour ce débat, Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Selon vous, Ziad Majed, Israël a franchi toutes les lignes rouges. Israël cherche à affaiblir le Hezbollah et à punir le Liban et sa population civile. Seuls les États-Unis peuvent arrêter cette escalade, selon vous. À côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Selon vous, Frédéric Ancel, nous ne sommes pas dans une guerre totale, car une guerre totale, ce serait le Hezbollah balançant, pardonnez-moi, je mets des guillemets, balançant des missiles sur Tel Aviv et les Israéliens envoyant au moins 150 000 hommes sur le terrain au Liban, donc. Amélie Chély, enfin, bonsoir madame, sociologue, spécialiste de l'Iran. Votre dernier essai, Le Coran de sang, le blasphème de Saddam, est paru aux éditions du CERF. Selon vous, l'Iran et le Hezbollah veulent mener une guerre d'usure contre Israël dans une logique de faire disparaître, d'éradiquer l'État hébreu. Si l'Iran temporise, c'est pour laisser planer un doute sur l'étendue de ses capacités à riposter. Et on démarre avec le chiffre du jour.
Israël a revendiqué donc 1600 frappes au Liban contre des cibles liées au Hezbollah et à ses stocks d'armes pour la seule journée d'hier. Bilan, plus de 550 morts sont les autorités libanaises, presque autant que le nombre total de victimes depuis le 7 octobre dans ce pays. C'est à dire l'intensification de cette confrontation entre Israël et la milice chiite. Aujourd'hui encore, Israël a de nouveau frappé des infrastructures du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Mais Frédéric Ancel, selon vous, est-ce que ces frappes militaires israéliennes, est-ce que c'est une offensive ou une contre-offensive suite aux nombreux missiles du Hezbollah qui tombent sur le territoire israélien depuis le 7 octobre?
Alors, du point de vue israélien,
est-ce que la guerre avait déjà commencé ou pas?
Oui, alors c'est évidemment une contre-offensive du point de vue israélien. Pourquoi? Parce qu'après le massacre du Hamas perpétré le 7 octobre, le Hezbollah a assumé un soutien au Hamas et donc a mené effectivement une guerre qu'on appelle de basse intensité ou une guerre d'usure, si vous voulez, à la frontière. Mais cette guerre d'usure est si réussie, entre guillemets, qu'entre 60 et 80 000 Israéliens ne peuvent plus vivre au nord chez eux. Et ça, c'est une première depuis 48 en Israël. Et donc, de ce point de vue, je dis souvent que la crédibilité dissuasive, à la fois pour le gouvernement, pour l'état-major et en fait pour une grande partie de la population israélienne, devait être recouvrée. C'est bien le point de vue israélien. C'est-à-dire que face à la déconvenue, c'est le moins qu'on puisse dire, du Hamas le 7 octobre, il fallait absolument, et face à un camp plus puissant que le Hamas, à savoir le Hezbollah, qui est beaucoup plus puissant en réalité que le Hamas, il fallait démontrer que les coups portés contre Israël ne pouvaient pas durer indéfiniment. C'est en tout cas la logique qui est celle de l'État d'Israël aujourd'hui.
Ziad Majed, il faut dire que le Hezbollah a tiré une centaine de missiles Fadi 1 et Fadi 2. C'est la première fois à une portée respective de 80 et 105 km. C'est quand même un tournant dans ce conflit, là, ce qu'on a vécu là, ces derniers jours.
Alors, c'est un tournant au niveau de l'intensité, évidemment, des bombardements. Mais il est vrai que les bombardements ont commencé après le 7 octobre et Hezbollah a voulu soutenir le Hamas et soutenir les Palestiniens, considérant qu'ils subissent depuis le 8 octobre, une guerre génocidaire. Donc ce front a été ouvert et la volonté était de préserver une baisse à moyenne intensité. Sauf que maintenant, les choses sont sorties du contrôle. À mon avis, les dynamiques du conflit commencent à s'imposer d'une manière de plus en plus intense. Et donc les bombardements israéliens n'ont pas seulement ciblé des bases militaires de Hezbollah, parce que si on voit la carte, ça a dépassé le sud Liban, vers tout l'est du pays, donc vers la Bekaa jusqu'à la ville de Baalbek dans le nord. Il vise également toute l'infrastructure qui est civile du pays, un pays qui subit aussi des conséquences de son effondrement économique et politique. Donc les frappes ont fait beaucoup de morts, y compris des secouristes, des enfants, des femmes. Et ça, c'est un tournant dans le sens où on n'est plus juste dans une géographie précise du bombardement, mais il commence à cibler la banlieue sud de Beyrouth, l'est du pays. Et donc, forcément, Hezbollah essaye de répondre de la même manière, sans pour autant prendre le risque que la guerre soit totale et qu'elle mène à beaucoup plus de destruction et peut-être de combats sur le sol.
Amélie Chély, en même temps, le Hezbollah a perdu beaucoup de ses commandants, beaucoup de ses dirigeants. C'était l'objectif d'Israël.
Si on regarde les annonces qui sont faites et puis même les modus operandi utilisés certainement, même si ça n'a pas été revendiqué par les services de renseignement israéliens, on est dans la volonté d'un ultra-ciblage, même si, comme on l'a vu, il y a eu des dégâts aussi annexes. Et quand il s'agissait, si je ne m'abuse, vous me corrigerez, des bombardements, il y avait eu une annonce de l'État pour, même si on sait que la chose n'est pas évidente, pour évacuer avant les bombardements qui étaient censés viser des dignitaires du Hezbollah.
Une annonce faite par l'État hébreu en arabe, d'ailleurs.
Exactement. Oui. Donc, dans cette vision-là, dans cette façon de voir les choses-là, côté iranien, si je peux me permettre de parler de l'Iran, il ne faut pas oublier que le Hezbollah, c'est le bébé de la République islamique. C'est-à-dire que quand il y a une révolution dans un pays, la première chose qu'on voit se concrétiser, c'est une volonté d'exportation de l'idéologie révolutionnaire. Ce qui a été le cas, l'Iran n'y a pas échappé, il a voulu exporter sa révolution et ça a pu se cristalliser dans le Hezbollah dès les années 80. Un coup d'arrêt a été infligé à cet élan d'exportation parce que très vite a commencé la guerre Iran-Irak 1980-1988, ce qui n'a pas empêché l'Iran plus tard ensuite de venir structurer des milices chiites. Mais le Hezbollah, c'est le bébé, c'est le satellite de la République islamique.
Je pense qu'il faut juste nuancer tout en ajoutant au fait qu'il y avait une volonté de l'exportation de la révolution iranienne, mais en même temps, ça répondait aussi à un contexte libano-libanais et libano-israélien, puisque la création de Hezbollah, c'est en 1983, donc c'était suite à deux invasions israéliennes du Liban en 78, mars 78, et en juin 82, qui ont fait 24 000 morts civils libanais et palestiniens, et qui ont mené aussi à l'effondrement ou à l'affaiblissement, disons, de la gauche libanaise, de l'OLP palestinienne. Et donc, dans ce contexte-là, et dans un sens de vide un peu politique, et au sein de la sociologie chiite du pays qu'on connaît aussi, puisque c'est un pays où il y a des clivages confessionnels, un système politique sectaire, l'Iran a profité d'une hégémonie syrienne et de l'invasion israélienne et de tous ses crimes et de son occupation pour créer Hezbollah et donc pour l'utiliser plus tard en tant qu'allié dans la région.
Pour revenir à aujourd'hui, Frédéric Ancel, quels sont les buts exacts d'Israël? Est-ce qu'Israël s'oriente vers une invasion terrestre? Visiblement, c'est pas ce que vous pensez, mais est-ce que ça peut être une option? Est-ce que c'est régionaliser le conflit pour à un moment donné avoir le soutien des Occidentaux? Est-ce que c'est juste établir une zone tampon entre Israël et le Liban, comme ce fut le cas auparavant, il y a encore quelques années?
À mon avis, Israël essaye de faire d'une pierre trois coups. La première, c'est, je le disais, dissuader le Hezbollah de poursuivre sa guerre donc de guérilla, disons, à la frontière, ou de basse intensité, depuis 11 mois. Je ne sais pas si ça sera réussi. Ce qui est sûr, c'est que pendant 11 mois, le Hezbollah a pris des coups déjà extrêmement durs. On est entre 500 et 600 combattants. Je ne parle que des combattants qui ont été anéantis. Et là, l'opération Beeper, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive dorénavant, marquer un changement de paradigme et un changement de rapport de force. Le Hezbollah, aujourd'hui, prend des coups extraordinairement durs. Donc, de ce point de vue-là, pour l'instant, c'est plutôt réussi. Deuxième point, c'est montrer à sa propre population, parce que n'oublions pas que dans toutes les enquêtes d'opinion, y compris maintenant, y compris depuis l'opération réussie des peurs, Netanyahou est en minorité dans les sondages. Et la majorité de la population israélienne le rend responsable à la fois du 7 octobre et de la non-libération
des otages,
dont il reste peut-être encore une cinquantaine dans les tunnels du Hamas. Et enfin, trois, c'est réellement démontrer aux alliés arabes, je dis bien aux alliés arabes, je parle bien d'Israël, que Israël est capable de faire, entre guillemets, le sale boulot, c'est-à-dire de réduire ou en tout cas endiguer ce qui est perçu dans une bonne partie du monde arabe comme la menace chiite. Je veux dire,
en accord avec des pays arabes, vous dites.
En accord avec des pays sunnites.
Mais bien sûr, les Émirats arabes unis, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Ça, on va jusqu'au Maroc. Mmh. Les Bahreïn, bien évidemment. L'Arabie saoudite, vraisemblablement, demain, la Jordanie qui a soutenu militairement Israël en avril,
c'est la raison pour laquelle... C'est pas ce qu'ils disent, Ziad Majed, vous êtes d'accord avec ça ou
non, c'est-à-dire, je pense qu'il faut premièrement faire la grande distinction entre des régimes arabes corrompus et autoritaires que tu as mentionnés et qui ne représentent pas leur population, puisqu'il n'y a pas d'élections dans ces pays-là, et ils ne peuvent pas être considérés tout à fait comme alliés, mais disons qu'il y a une certaine complicité par rapport à Hezbollah, étant donné qu'il est l'allié de l'Iran. Il y a aussi une complicité par rapport au Hamas qui a un background qui n'est pas chiite, qui est frère musulman, et les monarchies du Golfe sont opposées aux frères musulmans. Donc, il peut y avoir des complicités, mais à mon avis, ça reste des complicités de régime. Et on a vu que les frustrations au niveau des sociétés mènent à des explosions, à des révolutions, à des contre-révolutions. Donc, on ne peut jamais régler des problèmes aussi profonds dans le sens politique et sociologique du terme en utilisant juste la force aveugle et la force qui mène à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui alimentent un nihilisme, une colère et un sentiment que le monde est complice avec les Israéliens.
Amélie Chélie, puisque tout le monde parle de possibilité de guerre totale, ça voudrait dire à ce moment-là que l'Iran entrerait dans ce conflit et en même temps, on entend vos deux collègues dire qu'en même temps, il n'est pas sûr qu'il y ait une coalition de ces pays arabes autour de l'Iran, autour du Hezbollah.
Alors, pour l'instant, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux remonter à l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh, parce qu'une réponse violente avait été promise. Elle n'a toujours pas eu cours.
Donc, fin juillet dernier.
Voilà, c'est qu'entre-temps, il a fallu, dans l'urgence, restructurer beaucoup de choses à l'intérieur, parce qu'il a fallu élire un nouveau président et remettre en place. Donc, c'est M. Pezeshkian qui est président désormais. Donc, la guerre totale, si on regarde les canaux et les médias de la République islamique d'Iran actuellement, c'est plutôt dans la volonté israélienne qu'il faut l'envisager. Mais eux-mêmes ne menacent pas de cela.
Oui,
quand on parle d'escalade...
Et une guerre totale, ça serait des dizaines de milliers de soldats israéliens, notamment au sol.
Oui, et je n'y crois pas. D'abord parce que depuis l'ouverture de cette séquence ultra-violente... Alors, deuxième front, on s'approche peu à peu des 2000 morts en Israël, je veux dire, dont une partie de militaires et l'opinion publique est quand même extraordinairement hostile à l'actuel gouvernement, je le répète. Premier point. Deuxième point, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, c'est pas de moi, c'est d'Yves Lacoste. La géographie de Gaza, elle est favorable à Israël, enfin je veux dire, outre les tunnels et la guérilla urbaine. Au Liban, vous avez une profondeur stratégique pour le Hezbollah, et j'ajoute en Syrie, puisque le Hezbollah a maintenu quand même, avec ses alliés iraniens et russes, Bachar el-Assad au pouvoir, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ça serait beaucoup plus difficile de frapper le Hezbollah au sol. Enfin, dernier point, je pense que dans une escalade, il y a par définition un certain nombre d'échelons, et je dis souvent, je le disais sur votre plateau il y a quelque temps, le Hezbollah et la République islamique d'Iran sont dirigés par des gens que je considère comme étant des fanatiques, mais pas par des imbéciles. Ce sont des gens qui connaissent très bien les rapports de force. Et ce que vous avez dit est très juste. Si l'Iran n'a pas répliqué encore de manière sérieuse après l'assassinat du chef politique du Hamas Haniyeh chez lui, c'est parce que pour l'instant, me semble-t-il, l'Iran ne dispose pas de cette capacité militaire à frapper Israël de manière crédible et efficace.
Ziad Majed, on va plutôt vers une guerre d'usure, c'est cela, plutôt qu'une guerre totale. C'est comme ça qu'il faut le qualifier.
On est déjà dans une guerre d'usure. D'ailleurs, il faut faire juste le tour des villages et des villes du sud Liban, et j'ai été en juin dernier, déjà avant même l'intensification des bombardements, il y a des zones qui sont
totalement dévasté. Il y a plus de 100 000 déplacés internes. Mmh. Maintenant, ils sont presque un demi-million après les frappes d'hier et d'aujourd'hui. Donc, c'est une guerre d'usure qui s'est installée avec beaucoup de craintes qu'il y ait un tir d'un côté ou de l'autre qui peut, encore une fois, mener à plus de violence dans les bombardements. Mais c'est vrai que tout a changé depuis l'attaque des beepers, des pagers, mmh. et puis les assassinats qui ont ciblé plusieurs responsables du Hezbollah. Et puis avec cette vague de bombardements qui, comme je le dis et je le répète, cherche à punir le Liban et à punir non seulement la base sociale du Hezbollah, mais même la population en général, puisque quand il y a des routes ciblées, quand il y a 500 000 déplacés, avec les crises économiques, politiques, le problème d'eau, d'électricité, c'est toute une population qui est aujourd'hui touchée par cette nouvelle vague de bombardements.
Et qui est confrontée, alors la crise économique ne remonte pas aujourd'hui, elle remonte quasiment à l'explosion du port de Beyrouth, mais confrontée à une crise humanitaire et sanitaire sans précédent. Vous nous en parlez, Anna.
Oui, alors déjà, l'économie libanaise, elle souffre, hein, depuis longtemps, vous venez de le dire. Les pertes qui sont directement liées au conflit sont déjà estimées à 10 milliards de dollars pour le moment, selon le ministre de l'économie Amin Salah. Mais avec l'intensification du conflit, eh bien, ce montant pourrait encore augmenter et plonger le pays encore un peu plus dans la pauvreté. On l'a dit, la région qui est la plus touchée, évidemment, c'est le sud. Depuis le 7 octobre, l'activité commerciale a chuté de 80% à cause des échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël. Des routes ont été endommagées, 12 stations d'eau ont été entièrement détruites, 800 hectares de terre également détruites en pleine saison des récoltes. Et le Conseil du Sud, hein, qui est l'institution chargée d'évaluer les dégâts matériels dans la région, estimait au mois de mai déjà à 1 milliard le montant des dommages. Conséquence directe, vous l'avez dit, plus de 110 000 personnes ont déjà été déplacées, dont un tiers d'enfants depuis le mois d'octobre. Et rien qu'entre hier et aujourd'hui, des dizaines de milliers de familles ont été forcées de quitter la région, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Et plus inquiétant, l'OMS alerte, elle, de son côté, sur l'insécurité alimentaire qui touche déjà près de 20% de ces déplacés qui sont réduits pour la plupart à devoir mendier pour survivre. Ziad Majed, est-ce que le sud du Liban va subir le même sort que Gaza? Est-ce qu'on peut s'attendre là aussi à une crise humanitaire?
Alors, il est difficile de comparer ce qui se passe pour le moment au Liban à Gaza, et je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. Le Liban aussi n'est pas asphyxié, n'est pas assiégé. Il y a des frontières ouvertes avec la Syrie, avec la mer. Il y a plus ou moins encore une certaine protection de Beyrouth de la part de la France. Même les Américains disent que Beyrouth, la capitale, va être épargnée. Donc, on peut encore ravitailler le pays. En plus, les Israéliens ne peuvent pas détruire tous les hôpitaux comme ils l'ont fait à Gaza, pas toutes les écoles, toutes les universités comme ils l'ont fait à Gaza. Ils ne peuvent pas tuer des centaines de professeurs universitaires, des médecins et des journalistes comme ils l'ont fait à Gaza. Donc, ce n'est pas comparable. Là-bas, c'est une guerre génocidaire. Là, c'est une guerre qui vise les civils, mais qui reste dans un autre cadre. Par contre, les destructions au sud Liban de l'infrastructure, des habitations, ce qu'on appelle l'urbicide ou le domicide, peut arriver et est en train d'arriver dans certaines localités, mais ça ne généralise pas, heureusement, encore.
Frédéric Ancel, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit que c'est un autre Gaza.
Je ne suis pas d'accord pour la raison qui a été dite. Hein. Je pense qu'il ne faut pas galvauder. Les crises sont déjà suffisamment épouvantables comme ça pour les galvauder. Le contexte est extrêmement différent. Je ne suis pas d'accord avec le terme de guerre génocidaire, mais ce serait un autre débat qu'on a eu d'ailleurs dans Le Monde, hein, dans un supplément du Monde consacré au conflit israélo-palestinien, mais c'est une autre question. Sur le Liban, la guerre civile de 1975-1989 n'a pas commencé avec Israël. Je veux dire par là que, en dépit de la politique d'Israël d'aujourd'hui, dont on peut dire absolument tout ce qu'on veut, et j'entends bien ce qu'a dit Ziad, le Hezbollah n'est pas l'État libanais. Il vampirise le Liban. Tout à l'heure, à plusieurs titres, vous avez, et avec raison, vous avez donné un certain nombre de chiffres sur l'économie libanaise qui se trouve aujourd'hui par terre. Oui, enfin, je veux dire, le Hezbollah, depuis sa création ex nihilo par l'Iran en 82, effectivement, dans le cadre d'une réappropriation de la population chiite, d'un certain honneur, d'une part, cette population qui a toujours été méprisée par beaucoup d'autres communautés et par les principales au Liban, tout cela très bien. Mais sauf que le Hezbollah est devenu un État dans l'État, et je précise que là, je ne parle pas d'Israël, le Hezbollah contrevient aux accords un terre-arabe de Taïf de 89. Les autres milices devaient rendre leurs armes. Elles l'ont fait, pas le Hezbollah qui a démultiplié sa puissance. Et enfin, la résolution 1701 d'août 2006, après donc, la précédente guerre avec Israël, elle n'a pas été respectée par le Hezbollah. Et j'ajoute un dernier point, une partie importante, et en réalité la majorité des Libanais, détestent vraisemblablement et avec raison la politique d'Israël, mais ils ne rendent pas le Hezbollah, enfin ils rendent le Hezbollah co-responsable de cette situation, et je pense notamment à ces deux tiers ou à ces trois quarts des gens qui ne sont pas chiites et qui ne votent pas pour le Hezbollah.
Alors le rôle de l'Iran, vous l'avez dit, hein, qui est proche du Hezbollah, est crucial. Écoutez le président iranien qui appelle les voisins arabes à être solidaires du Hezbollah et dans cette guerre.
Hezbollah by herself cannot stand against a country that is armed to the teeth. Hezbollah cannot do that alone. Hezbollah cannot stand alone against a country that is being defended and supported and supplied by Western countries, European countries and the United States of America.
Amélie Chély, pour l'instant, c'est l'équilibre de la tension. C'est ça qui est en train de se jouer.
Quand on regarde la presse des gardiens de la Révolution, surtout plus que de la presse d'État iranienne, même si souvent elles sont à l'unisson, depuis le 7 octobre, on a un concept qui revient très régulièrement, c'est « the boiling frog ». C'est une stratégie qui, en plus, coïncide parfaitement avec l'état d'esprit de la culture iranienne qui est très long-termiste, qui voit tout le fait d'être magnanime dans le long-termisme. Donc, c'est la grenouille qui voyant les degrés monter, va finalement ne peut pas se rendre compte qu'elle est en train de mourir. En fait, on est dans une volonté, du moins c'est ce qu'explique la presse iranienne, de confronter une façon de faire la guerre qui est de tuer les fronts avant qu'ils ne se dressent dans l'œuf, qui est de donner, de faire, je sais que le mot convient assez peu dans ces circonstances-là, une blitzkrieg, en fait, pour mettre un terme rapidement à ce qui pose problème, tandis que de l'autre côté, on est vraiment à deux titres dans une guerre d'usure qui va servir les intérêts de l'Iran. Et là, je ferai très très vite, parce que l'Iran avait un blason à redorer. Quand on avait la guerre en Syrie, l'antichiisme était partout. Hein, c'est-à-dire que le monde musulman est très majoritairement sunnite, l'antichiisme était très très présent. Avec cette guerre qu'il y a actuellement au Proche-Orient, comme l'Iran est crédible dans son antisionisme plus que n'importe quel autre pays sunnite, eh bien ça vient redorer le blason et finalement ressouder les rues musulmanes autour de cette
antichiisme. Ziad Majed, est-ce que la date importante, ce n'est pas le 5 novembre, élection américaine? On a l'impression que les deux parties aussi jouent beaucoup sur cette échéance-là.
Oui, en fait, je pense que ce moment-là où Netanyahou considère que Biden est affaibli, que son administration ne peut pas peser sur les processus politiques et sur la question des négociations et du cessez-le-feu, il accélère les opérations militaires et élargit les fronts, sachant aussi qu'on ne sait pas encore si c'est Donald Trump, qui est très favorable à la politique Netanyahou, qui peut être élu, ou bien Kamala Harris, qui montre plus de réserves. Donc, dans ce temps-là, qui est très dangereux, étant donné qu'on est entre l'attente et les incertitudes et la faiblesse d'une administration pareille, on peut peut-être considérer que les opérations militaires peuvent s'intensifier. Et juste, je terminerai sur le fait que il y a des clivages politiques au Liban, comme dans n'importe quel pays, et donc oui, il n'y a pas un consensus autour de Hezbollah, ça c'est évident, mais on va aujourd'hui dans une configuration qui va au-delà des clivages politiques libanais, puisque c'est tout le pays qui est bombardé, qui est ciblé, qui subit des déplacements internes, donc les responsabilités des crises politiques sont un peu derrière nous.
Merci.
Et l'occupation israélienne a une histoire au Liban qui dure de 78 à 2000, en plus de la guerre de 2006, donc il y a tout ce qui fait que les paramètres vont vers cette conflictualité aussi.
Merci Ziad Majed et merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.